Les possédés, première partie, chapitre 2. Le prince Harry, une demande en mariage. 1. Il existait sur la terre un être à qui Barbara Petrovna n'était pas moins attachée qu'à Stepan Trofimovitch. C'était son fils unique, Nicolas Vsevolodovitch Stavrogin. Il avait 8 ans lorsque sa mère le confia aux soins d'un précepteur. Rendons justice à Stepan Trofimovitch, il sut se faire aimer de son élève. Tout son secret consistait en ce que lui-même était un enfant. Il ne me connaissait pas encore à cette époque. Or, comme toute sa vie, il eut besoin d'un confident. Il n'hésita pas à investir de ce rôle le petit garçon, dès que celui-ci eut atteint sa 10e ou sa 11e année. La plus franche intimité s'établit entre eux, nonobstant la différence des âges et des situations. Plus d'une fois, Stepan Trofimovitch éveilla son jeune ami, à seule fin de lui révéler, avec des larmes dans les yeux, les amertumes dont il était abreuvé. Ou bien encore, il lui découvrait quelques secrets domestiques, sans songer que cette manière d'agir était très blâmable. Ils se jetaient dans les bras l'un de l'autre et pleuraient. L'enfant savait que sa mère l'aimait beaucoup. La payait-il de retour ? J'en doute. Elle lui parlait peu et ne le contrariait guère, mais elle le suivait constamment des yeux. Et il éprouvait toujours une sorte de malaise en sentant ce regard attaché sur lui. Pour tout ce qui concernait l'instruction et l'éducation de son fils, Barbara Petrovna s'en remettait pleinement à Stepan Trofimovitch, car, dans ce temps-là, elle le voyait encore à travers ses illusions. Il est à croire que le maître détraqua plus ou moins le système nerveux de son élève. Quand, à l'âge de 16 ans, Nicolas Vsevolodovitch fut envoyé au lycée, c'était un adolescent débile et pâle, dont la douceur et l'humeur rêveuse avaient quelque chose d'étrange. Plus tard, il se distingua par une force physique extraordinaire. En tout cas, on fit bien de séparer les deux amis. Peut-être même aurait-on dû prendre cette mesure plus tôt. Pendant les 2 premières années de son séjour au lycée, le jeune homme revint passer ses vacances à Skvoreshniki. Lorsque Barbara Petrovna se fut rendue à Pétersbourg avec Stepan Trofimovitch, il assista à quelques-unes des soirées littéraires qui avaient lieu chez elle. Parlant peu, tranquille et timide comme autrefois, il se bornait à écouter et à observer. Son ancienne affection pour Stepan Trofimovitch ne semblait pas refroidie, mais elle était devenue moins expansive. Après avoir terminé ses études, il entra au service militaire sur le désir de Barbara Petrovna. Bientôt, on le fit passer dans un des plus brillants régiments de la garde à cheval. Il n'alla point montrer son uniforme à sa mère, et ne lui écrivit que rarement. Barbara Petrovna ne lésinait point sur les envois d'argent, bien que l'abolition du servage eût tout d'abord réduit de moitié son revenu. Du reste, les économies faites par elle depuis de longues années avaient fini par former un capital assez rondelé. Elle s'intéressait vivement au succès de son fils dans la haute société pétersbourgeoise. C'était en quelque sorte la revanche de ses ambitions déçues. Elle était heureuse de se dire que les portes dont elle n'avait pu franchir le seuil s'ouvraient toutes grandes devant ce jeune officier riche et plein d'avenir. Mais des bruits assez étranges ne tardèrent pas à arriver aux oreilles de Barbara Petrovna. À en croire ses récits, Nicolas Vsevolodovitch avait brusquement commencé une existence de folie. Ce n'était pas qu'il jouât ou s'adonnât outre mesure à la boisson. Non. On signalait seulement chez lui des excentricités sauvages, On parlait de Jean écrasé par ses chevaux. On lui reprochait un procédé féroce à l'égard d'une dame de la bonne société qu'il avait outragée publiquement après avoir eu des relations intimes avec elle. Il y avait même quelque chose de particulièrement ignoble dans cette affaire. De plus, on le dépeignait comme un bretteur, cherchant noise à tout le monde, insultant les gens pour le plaisir de les insulter. L'inquiétude s'empara de la générale. Stepan Trofimovitch lui assura qu'une organisation trop riche devait nécessairement jeter sa gourme, que la mer avait ses orages, et que tout cela ressemblait à la jeunesse du prince Harry que Shakespeare nous représente, faisant la noce en compagnie de Falstaff, de Poince et de Mistress Quickly. Cette fois, loin de traiter de « sornette » les paroles de son ami, comme elle avait coutume de le faire depuis quelque temps, Barbara Petrovna, au contraire, les écouta très volontiers. Elle se les fit expliquer avec plus de détails et lut même très attentivement l'immortel ouvrage du tragique anglais. Mais cette lecture ne lui procura aucun apaisement. Les analogies signalées par Stepan Trofimovitch ne la frappèrent point. Voulant être fixée sur la conduite de son fils, elle écrivit à Pétersbourg et attendit fiévreusement la réponse à ses lettres. Le courrier lui apporta bientôt les plus fâcheuses nouvelles. Le prince Harry avait eu, presque coup sur coup, deux duels, dans lesquels tous les torts se trouvaient de son côté. Il avait tué roide l'un de ses adversaires, blessé l'autre grièvement, et, à raison de ces faits, il allait passer en conseil de guerre. L'affaire se termina par sa dégradation et son envoi comme simple soldat dans un régiment d'infanterie. Encore usa-t-on d'indulgence à son égard. En 1863, ayant eu l'occasion de se distinguer, Nicolas Vsevolodovitch fut décoré et promu sous-officier. Peu après, on lui rendit même l'épaulette. Durant tout ce temps, Barbara Petrovna expédia à la capitale peut-être 100 lettres, pleines de supplications et d'humbles prières. Le cas était trop exceptionnel pour qu'elle ne rabattît pas un peu de son orgueil. À peine réintégré dans son grade, le jeune homme s'empressa de donner sa démission. Mais il ne revint pas à Skvoreshniki et cessa complètement d'écrire à sa mère. On apprit enfin, par voie indirecte, qu'il était encore à Pétersbourg. Seulement, il ne voyait plus du tout la société qu'il fréquentait autrefois. On aurait dit qu'il se cachait. À force de recherche, on découvrit qu'il vivait dans un monde étrange. Il s'était accoquiné au rebut de la population pétersbourgeoise, à des employés faméliques, à d'anciens militaires toujours ivres et n'ayant d'autres ressources qu'une mendicité plus ou moins déguisée. Il visitait les misérables familles de ces gens-là, passait les jours et les nuits dans d'obscurs taudis et ne prenait plus aucun soin de sa personne. Apparemment, cette existence lui plaisait. Sa mère ne recevait de lui aucune demande d'argent. Il vivait sur le revenu du petit bien que son père lui avait laissé et que, disait-on, il avait affermé à un Allemand de la Saxe. Finalement, Barbara Petrovna le supplia de revenir auprès d'elle, et le prince Harry fit son apparition dans notre ville. C'est alors que je le vis pour la première fois. Auparavant, je ne le connaissais que de réputation. C'était un fort beau jeune homme de 25 ans, et j'avoue que son extérieur ne répondit nullement à mon attente. Je m'étais figuré Nicolas Vsevolodovitch comme une sorte de bohème débraillé, aux traits flétris par le vice et les excès alcooliques. Je trouvais au contraire en lui le gentleman le plus correct que j'eusse jamais rencontré. Sa mise ne laissait absolument rien à désirer, et ses façons étaient celles d'un monsieur habitué à vivre dans le meilleur monde. Il n'y eut pas que moi de surpris. La ville entière partagea mon étonnement, car chacun chez nous connaissait déjà toute la biographie de M. Stavrogin. son arrivée mit en révolution tous les cœurs féminins. Il eut parmi nos dames des admiratrices et des ennemies, mais les unes et les autres raffolèrent de lui. Il plaisait à celle-ci parce qu'il y avait peut-être un affreux secret dans son existence, et à celle-là parce qu'il avait positivement tué quelqu'un. De plus, on le trouvait fort instruit. À la vérité, il n'était pas nécessaire de posséder un grand savoir pour exciter notre admiration. Mais, outre cela, il jugeait avec un bon sens remarquable les diverses questions courantes. Je note ce point comme une particularité curieuse. Presque dès le premier jour, tous chez nous s'accordèrent à reconnaître en lui un homme extrêmement sensé. Il était peu causeur, élégant sans recherche et d'une modestie étonnante, ce qui ne l'empêchait pas d'être plus hardi et plus sûr de soi que personne. Nos fashionables lui portaient envie et s'effaçaient devant lui. Son visage me frappa aussi. Il avait des cheveux très noirs, des yeux clairs d'une sérénité et d'un calme peu communs, un teint blanc et délicat, des dents semblables à des perles, et des lèvres qui rivalisaient avec le corail. Cette tête faisait l'effet d'un beau portrait, et cependant il y avait en elle un je ne sais quoi de repoussant. On disait qu'elle avait l'air d'un masque. D'une taille assez élevée, Nicolas Vsevolodovitch passait pour un homme exceptionnellement vigoureux. Barbara Petrovna le considérait avec orgueil, mais à ce sentiment se mêlait toujours de l'inquiétude. Pendant un semestre, il vécut tranquillement chez nous. Strict observateur des lois de l'étiquette provinciale, il allait dans le monde où il ne paraissait guère s'amuser. Il avait ses grandes et ses petites entrées chez le gouverneur, qui était son parent du côté paternel. Mais, au bout de 6 mois, le fauve se révéla tout à coup. Affable et hospitalier, notre cher Ivan Osipovitch était plutôt fait pour être maréchal de la noblesse au bon vieux temps que gouverneur à une époque comme la nôtre. On avait coutume de dire que ce n'était pas lui qui gouvernait la province, mais Barbara Petrovna. Mot plus méchant que juste, car malgré la considération dont toute la société l'entourait, la générale avait depuis plusieurs années abdiqué toute action sur la marche des affaires publiques, et maintenant elle ne s'occupait plus que de ses intérêts privés. 2 ou 3 ans lui suffirent pour faire rendre à son domaine à peu près ce qu'il rapportait avant l'émancipation des paysans. Le besoin d'amasser, de thésauriser, avait remplacé chez elle les aspirations poétiques de jadis. Elle éloigna même Stepan Trofimovitch de sa personne, en lui permettant de louer un appartement dans une autre maison. Depuis longtemps, lui-même sollicitait cette permission sous divers prétextes. Nous tous, qui avions nos habitudes chez la générale, nous comprenions que son fils lui apparaissait maintenant comme une nouvelle espérance, comme un nouveau rêve. Sa passion pour lui datait de l'époque où le jeune homme avait obtenu ses premiers succès dans la société pétersbourgeoise, et elle était devenue plus ardente encore à partir du moment où il avait été cassé de son grade. Mais en même temps, Barbara Petrovna avait évidemment peur de Nicolas Vsevolodovitch, et qui, devant lui, son attitude était presque celle d'une esclave. Ce qu'elle craignait, elle-même n'aurait pu le préciser. C'était quelque chose d'indéterminé et de mystérieux. Souvent, elle regardait Nicolas à la dérobée, comme si elle eût cherché sur son visage une réponse à des questions qui la tourmentaient. Et tout à coup, la bête féroce sortit ses griffes. Deux. Brusquement, sans rime ni raison, notre prince fit à diverses personnes 2 ou 3 insolences inouïes. Cela ne ressemblait à rien, ne s'expliquait par aucun motif, et dépassait de beaucoup les gamineries ordinaires que peut se permettre un jeune écervelé. Un des doyens les plus considérés de notre club, Pierre Pavlovitch Gaganov, homme âgé et ancien fonctionnaire, avait contracté l'innocente habitude de dire à tout propos d'un ton de colère « Non, on ne me mène pas par le nez !» Un jour, au club, dans un groupe composé de gens qui n'étaient pas non plus les derniers venus, il lui arriva de répéter sa phrase favorite. Au même instant, Nicolas Vsefolodovitch, qui se trouvait un peu à l'écart et à qui personne ne s'adressait, s'approcha du vieillard, le saisit par le nez et, le tirant avec force, l'obligea à faire ainsi deux ou trois pas à sa suite. Il n'avait aucune raison d'en vouloir à M. Gaganov. On aurait pu ne voir là qu'une simple espièglerie d'écolier, espièglerie impardonnable, il est vrai. Cependant, les témoins de cette scène racontèrent plus tard qu'au cours de l'opération, la physionomie du jeune homme était rêveuse, comme s'il avait perdu l'esprit. Mais ce fut longtemps après que cette circonstance revint à la mémoire et donna à réfléchir. Sur le moment, on ne remarqua que l'attitude de Nicolas Vsefolodovitch dans l'instant qui suivit l'offense faite par lui à Pierre Pavlovitch. Il comprenait très bien l'acte qu'il venait de commettre, et, loin d'en éprouver aucune confusion, il souriait avec une gaieté maligne. Rien en lui n'indiquait le moindre repentir. L'incident provoqua un vacarme indescriptible. Un cercle, d'où partaient des exclamations indignées, s'était formé autour du coupable. Celui-ci, sans répondre à personne, se contentait d'observer tous ces visages dont les bouches s'ouvraient pour proférer des cris. À la fin, fronçant le sourcil, il s'avança d'un pas ferme vers Gaganov. « Vous m'excuserez, naturellement. Je ne sais pas, en vérité, comment cette idée m'est venue tout à coup. Une bêtise » murmura-t-il à la hâte d'un air vexé. Cette façon cavalière de s'excuser équivalait à une nouvelle insulte. Les vociférations redoublèrent. Nicolas Vsefolodovitch haussa les épaules et sortit. Tout cela était fort bête, en même temps que de la dernière inconvenance. Calculé et prémédité, comme à première vue il semblait l'être, l'insolent procédé dont Pierre Pavlovitch avait été victime était un outrage rejaillissant sur toute notre société. Ainsi en jugea l'opinion publique. Le club commença par rejeter de son sein M. Stavrogin, dont l'exclusion fut votée à l'unanimité. Ensuite, on se décida à adresser une plainte au gouverneur. Son Excellence était priée, en attendant le dénouement que cette affaire pourrait recevoir devant les tribunaux, d'user immédiatement des pouvoirs administratifs à elle confiés pour mettre à la raison un querelleur et un bretteur de la capitale, dont les agissements brutaux compromettaient la tranquillité de tous les gens comme il faut de notre ville. On ajoutait avec une pointe de causticité que M. Stavrogin lui-même n'était peut-être pas au-dessus des lois. Cette phrase était une allusion maligne à l'influence présumée de Barbara Petrovna sur le gouverneur. Celui-ci se trouvait alors absent, mais on savait qu'il reviendrait bientôt. Il était allé dans une localité voisine tenir sur les fonts baptismaux l'enfant d'une jeune et jolie veuve que son mari, en mourant, avait laissé dans une situation intéressante. En attendant, on fit à l'offensé Pierre Pavlovitch une véritable ovation. On lui prodigua les poignées de main et les embrassades. Toute la ville l'alla voir. On songea même à lui offrir un banquet par souscription, et l'on ne renonça à cette idée que sur ses instants de prière. Peut-être aussi les organisateurs de la manifestation finirent-ils par comprendre qu'après tout, il n'y avait pas lieu de tant glorifier un homme parce qu'on l'avait mené par le nez. Et pourtant, comment cela était-il arrivé? Comment cela avait-il pu arriver ? Chose digne de remarque, personne chez nous n'attribuait à la folie l'acte étrange de Nicolas Vsevolodovitch. Donc, on croyait que, même en possession de sa raison, il était capable de se conduire ainsi. De mon côté, aujourd'hui encore, je ne sais comment expliquer le fait, bien qu'un événement survenu peu après ait paru en fournir une explication satisfaisante. J'ajouterai que, 4 ans plus tard, Nicolas Vsevolodovitch, discrètement questionné par moi à ce sujet, répondit en fronçant le sourcil « Oui, je n'étais pas très bien à cette époque. » Mais n'anticipons pas. Je ne fus pas peu étonné non plus du débordement de haine qui alors se produisit partout contre le querelleur et bretteur de la capitale. On voulait absolument voir dans son cas un affront fait de propos délibérés à la société tout entière. Évidemment, cet homme n'avait rallié autour de lui aucune sympathie, et s'était au contraire aliéné tout le monde. Mais comment cela ? Jusqu'à l'affaire du club, il n'avait eu de querelle avec personne, n'avait offensé âme qui vive, s'était toujours montré d'une politesse irréprochable. Je suppose qu'on le haïssait à cause de son orgueil. Nos dames elles-mêmes, qui avaient commencé par l'adorer, criaient maintenant contre lui encore plus que les hommes. Barbara Petrovna était consternée. Elle avoua plus tard à Stepan Trofimovitch qu'elle avait vécu cela longtemps en avance, que chaque jour, depuis 6 mois, elle s'attendait précisément à quelque incartade de ce genre. Aveu remarquable dans la bouche d'une mère. « Voilà le commencement !» pensait-elle frissonnante. Le lendemain de l'incident survenu au club, elle décida qu'elle aurait un entretien avec son fils. Mais, malgré son caractère résolu, la pauvre femme ne pouvait s'empêcher de trembler. Après une nuit sans sommeil, elle alla tout au matin conférer avec Stepan Trofimovitch et pleura chez lui, elle qui n'avait jamais pleuré devant personne. Elle voulait que Nicolas lui dît au moins quelque chose, daignât s'expliquer. Nicolas, toujours si poli et si respectueux avec sa mère, l'écouta pendant quelque temps d'un air maussade, mais très sérieusement. Tout à coup, il se leva, lui baisa la main et sortit sans répondre un mot. Comme par un fait exprès, le soir de ce même jour eut lieu un nouveau scandale, qui, sans avoir à beaucoup près la gravité du premier, accrut encore l'irritation d'un public déjà très mal disposé. Cette fois, ce fut notre ami Lipoutine qui écopa. Il arriva chez Nicolas Vsevolodovitch au moment où celui-ci venait d'avoir son explication avec sa mère. Ce jour-là, l'employé donnait une petite soirée pour célébrer l'anniversaire de la naissance de sa femme, et il venait prier M. Stavrogin de lui faire l'honneur d'y assister. Depuis longtemps, Barbara Petrovna était désolée de voir que son fils aimait surtout à fréquenter les gens de bas étage. Mais elle n'osait lui adresser aucune observation à ce sujet. Il n'était pas encore allé chez Lipoutine, quoiqu'il se fût déjà rencontré avec lui. Dans la circonstance présente, il n'eut pas de peine à deviner pourquoi on lui faisait la politesse d'une invitation. En sa qualité de libéral, Lipoutine était enchanté du scandale de la veille, et il estimait qu'il fallait procéder ainsi à l'égard des notabilités du club. Nicolas Vsevolodovitch sourit et promit d'aller chez l'employé. Il trouva là une société nombreuse et peu choisie, mais pleine d'entrain. Lipoutine, qui ne recevait que 2 fois par an, ne regardait pas à la dépense dans ces rares occasions. Stepan Trofimovitch, le plus considérable des invités, n'avait pu venir parce qu'il était malade. Le thé, l'eau-de-vie et les rafraîchissements d'usage figuraient en aussi grande abondance qu'on pouvait le désirer. Les joueurs occupaient 3 tables, et la jeunesse dansait au piano en attendant le souper. Nicolas Vsevolodovitch engagea la maîtresse de la maison, charmante petite dame que cet honneur intimida fort. Ils firent deux tours ensemble. Puis le jeune homme s'assit à côté de Madame Lipoutine, se mit à causer avec elle et l'égaya par sa conversation. Remarquant enfin combien elle était jolie quand elle riait, il la saisit tout à coup par la taille et, à trois reprises, devant tout le monde, la baisa amoureusement sur les lèvres. Épouvantée, la pauvre femme s'évanouit. Nicolas Vsevolodovitch prit son chapeau et s'approcha du mari qui avait perdu la tête au milieu de la confusion générale. En le regardant, lui-même se troubla. « Ne vous fâchez pas » murmura-t-il rapidement. Et il sortit. Lipoutine courut après lui, le rejoignit dans l'antichambre, lui donna sa pelisse et le reconduisit cérémonieusement jusqu'au bas de l'escalier. Mais cette histoire, au fond relativement innocente, eut le lendemain un épilogue assez drôle qui, par la suite, valut à Lipoutine la réputation d'un homme très perspicace. À 10 heures du matin, sa servante Agafia arriva à la maison de Barbara Petrovna. C'était une fille de 30 ans, au visage vermeil et aux allures très décidées. Elle demanda instamment à voir Nicolas Vsevolodovitch en personne, disant que son maître l'avait chargé d'une commission pour lui. Quoique le jeune homme eût fort mal à la tête, il ne laissa pas de la recevoir. Le hasard fit que la générale assista à l'entretien. « Serge Vassilitch, commença bravement Agafia, m'a chargé de vous remettre ses salutations et de m'informer de votre santé. Il désire savoir si vous avez bien dormi et comment vous vous trouvez depuis la soirée d'hier. » Nicolas Vsevolodovitch sourit. « Tu présenteras mes saluts et mes remerciements à ton maître. Tu lui diras aussi de ma part, Agafia, qu'il est l'homme le plus intelligent de toute la ville. » « Quant à cela, reprit plus hardiment encore la servante, il m'a ordonné de vous répondre qu'il n'a pas besoin que vous le lui appreniez et qu'il vous souhaite la même chose. »«
Bah, mais comment a-t-il pu savoir ce que je te dirais ?»«
Je ne sais pas de quelle manière il l'a deviné, mais j'étais déjà loin de la maison quand il a couru après moi tête nue. « Agafiushka, me dit-il, si par hasard on t'ordonne de dire à ton maître qu'il est l'homme le plus intelligent de toute la ville, ne manque pas de répondre aussitôt. Nous le savons très bien nous-mêmes, et nous vous souhaitons la même chose. » III. Enfin eut lieu aussi une explication avec le gouverneur. À peine de retour de la ville, notre cher Ivan Osipovitch dut prendre connaissance de la plainte déposée au nom du club. Sans doute il fallait faire quelque chose, mais quoi ? Notre aimable vieillard se trouvait assez embarrassé, car lui-même n'était pas sans avoir une certaine peur de son jeune parent. À la fin pourtant, il s'arrêta à la combinaison suivante. Agir sur Nicolas Vsevolodovitch pour le décider à présenter au club, ainsi qu'à l'offensé, des excuses satisfaisantes, écrites même, au besoin, puis lui insinuer en douceur qu'il ferait bien de nous quitter, d'entreprendre par exemple un voyage d'agrément en Italie ou dans tout autre pays de l'Europe. Le jeune homme, qui, comme membre de la famille, avait accès dans toute la maison, fut cette fois reçu à la salle. Un employé de confiance, Alexis Stelianikov, était assis devant une table, dans un coin, et décachetait les dépêches. Dans la pièce suivante, près de la fenêtre la plus rapprochée de la porte de la salle, se trouvait un colonel, gros et bien portant, qui, de passage dans notre ville, était venu faire visite à son ami et ancien camarade Ivan Osipovitch. Ce militaire tournait le dos à la salle et lisait le Golo. Évidemment, il ne s'occupait pas de ce qui se passait derrière lui. Le gouverneur commença à voix basse un discours hésitant et quelque peu confus.
Nicolas, assis près du vieillard, l'écoutait avec une physionomie qui n'avait rien d'aimable. Pâle, les yeux baissés, il fronçait les sourcils comme un homme qui lutte contre une violente souffrance. « Votre cœur, Nicolas, est bon et noble, » dit entre autres choses le gouverneur. « Vous êtes un homme fort instruit, vous avez vécu dans la haute société, et ici même, jusqu'à présent, votre conduite pouvait être citée en exemple. Vous faisiez le bonheur d'une mère que nous aimons tous. Et voici que maintenant, tout prend un aspect énigmatique et inquiétant pour tout le monde. Je vous parle comme un ami de votre famille, comme un vieillard qui vous porte un sincère intérêt, comme un parent dont le langage ne peut offenser. Dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à commettre ces excentricités en dehors de toutes les règles et de toutes les conventions sociales? Que peuvent dénoter ces frasques, pareilles à des actes de démence? Nicolas écoutait avec colère et impatience. Soudain, une expression narquoise passa dans ses yeux. « Soit, je vais vous le dire, » répondit-il d'un air maussade. Et, après avoir jeté un regard derrière lui, il se pencha à l'oreille du gouverneur. Alexis Teliatnikov fit 3 pas vers la fenêtre, et le colonel toussa derrière son journal. Le pauvre Ivan Osipovitch, sans défiance, se hâta de tendre l'oreille. Il était extrêmement curieux. Et alors, se produisit quelque chose d'impossible, mais dont, malheureusement, il n'y avait pas moyen de douter. Au moment où le vieillard s'attendait à recevoir la confidence d'un secret intéressant, il sentit tout à coup la partie supérieure de son oreille happée par les dents de Nicolas et serrée avec assez de force entre les mâchoires du jeune homme. Il se mit à trembler, le souffle s'arrêta dans son gosier. « Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? » gémit-il machinalement d'une voix qui n'était plus sa voix naturelle. Alexis et le colonel n'avaient encore eu le temps de rien comprendre. D'ailleurs, ils ne voyaient pas bien ce qui se passait. Et jusqu'à la fin, ils crurent à une conversation confidentielle entre les deux hommes. Cependant, le visage désespéré du gouverneur les inquiéta. Ils se regardèrent l'un l'autre avec de grands yeux, ne sachant s'ils devaient s'élancer au secours du vieillard, comme cela était convenu, ou s'il fallait attendre encore un peu. Nicolas remarqua peut-être leur hésitation, et ses dents serrèrent plus fort que jamais l'oreille d'Ivan Osipovitch. « Nicolas, Nicolas !» gémit de nouveau celui-ci. « Allons, la plaisanterie a assez duré !» Encore un moment, et sans doute le pauvre homme serait mort de peur. Mais le scélérat eut pitié de sa victime et lâcha prise. Le vieillard, qui avait été dans des transes mortelles pendant toute une longue minute, eut une attaque à la suite de cette scène. Une demi-heure après, Nicolas fut arrêté, emmené au corps de garde et enfermé dans une cellule spéciale, à la porte de laquelle on plaça un factionnaire muni d'instructions très rigoureuses. Cette mesure sévère contrastait avec la douceur habituelle de notre aimable gouverneur. Mais il était si fâché qu'il ne craignit pas d'en assumer la responsabilité, au risque d'exaspérer Barbara Petrovna. À la nouvelle de l'arrestation de son fils, cette dame entra dans une violente colère et se rendit aussitôt chez Ivan Osipovitch, décidée à réclamer de lui des explications immédiates. L'étonnement fut grand en ville quand on apprit que le gouverneur avait refusé de la recevoir. Elle-même croyait rêver. Et enfin, tout s'expliqua. À 2 heures de l'après-midi, le prisonnier, qui jusqu'alors était resté fort calme et même avait dormi, commença soudain à faire du tapage. Il asséna de furieux coups de poing contre la porte, arracha par un effort presque surhumain le grillage en fer placé devant l'étroite fenêtre de sa cellule, brisa la vitre et se mit les mains en sang. L'officier de garde accourut avec ses hommes pour maîtriser le forcené, mais, en pénétrant dans la casemate, on s'aperçut qu'il était en proie à un accès de délirium tremens, des mieux caractérisés, et on le transporta chez sa mère. Cet événement fut une révélation. Les trois médecins de notre ville émirent l'avis que les facultés mentales du malade étaient peut-être altérées depuis 3 jours déjà, et que, durant ce laps de temps, ses actes, tout en offrant l'apparence de l'intentionnalité et même de la ruse, avaient pu être accomplis en dehors de la volonté et du jugement. Les faits, du reste, confirmaient cette manière de voir. La conclusion qui ressortait de là, c'est que Lipoutine avait montré plus de sagacité que tout le monde. Ivan Osipovitch, homme délicat et sensible, fut fort confus. Mais sa conduite prouvait que lui aussi avait cru Nicolas Vsevolodovitch capable de commettre en état de raison les actes les plus insensés. Au club, on eut honte de s'être si fort échauffé contre un irresponsable, et l'on s'étonna que nul n'ait songé à la seule explication possible de toutes ces étrangetés. Naturellement, il y eut aussi des sceptiques, mais ils ne tardèrent pas à être débordés par le courant de l'opinion générale. Nicolas garda le lit pendant plus de 2 mois. Un célèbre médecin de Moscou fut appelé en consultation. Toute la ville alla voir Barbara Petrovna. Elle pardonna. Au printemps, comme son fils était tout à fait rétabli, elle lui proposa de partir pour l'Italie, ce à quoi il consentit, sans soulever la moindre objection. Le jeune homme montra la même docilité lorsque sa mère l'engagea à aller dire adieu à ses connaissances et à profiter de cette occasion pour présenter des excuses là où il y avait lieu de le faire. Sur ce point encore, il céda de très bonne grâce. On sut au club que, chez Pierre Pavlovitch Gaganov, il s'était expliqué dans les termes les plus délicats avec ce dernier et l'avait laissé entièrement satisfait. Durant cette tournée de visite, Nicolas fut très sérieux et même un peu sombre. Partout, on le reçut avec toutes les apparences de l'intérêt. Mais partout aussi, on se sentait gêné, et l'on était bien aise de savoir qu'il allait en Italie. Lorsqu'il vint prendre congé d'Ivan Osipovitch, le vieillard versa des larmes, mais ne put se résoudre à l'embrasser, même au moment des derniers adieux. À la vérité, plusieurs chez nous restait convaincu que le vaurien s'était simplement moqué de toute notre population et que sa maladie n'avait été qu'une frime. Nicolas passa également chez Lipoutine. « Dites-moi, lui demanda-t-il, comment avez-vous pu deviner à l'avance ce que je dirais de votre intelligence et charger Agafia d'une réponse ad hoc ?» « Parce que je vous considère, moi aussi, comme un homme intelligent, » fit en riant Lipoutine. « Je pouvais par conséquent prévoir votre réponse. » « La coïncidence n'en est pas moins remarquable, mais pourtant permettez. Ainsi vous me considériez comme un homme intelligent, et non comme un fou, quand vous avez envoyé Agafia. » « Comme un homme très intelligent et très sensé. Seulement... j'ai fait semblant de croire que vous n'aviez pas votre bon sens. Vous-même, alors, vous avez immédiatement pénétré ma pensée, et vous m'avez fait remettre par Agafia une patente d'homme d'esprit. Eh bien, ici, vous vous trompez un peu. Le fait est que... je ne me portais pas bien, balbutia Nicolas Vsevolodovitch en fronçant le sourcil. Bah, s'écria-t-il. « Pouvez-vous croire en réalité que, possédant toute ma raison, je sois capable de me jeter sur les gens? Mais pourquoi donc ferais-je cela ?» Lipoutine ne sut que répondre, mais sa physionomie répondit pour lui. Nicolas pâlit légèrement, du moins l'employé crut le voir pâlir. « En tout cas, vous avez une tournure d'esprit fort amusante, » poursuivit le jeune homme. Mais quant à la visite d'Agafia, je comprends, naturellement, que c'était un affront que vous me faisiez. Aurait-il fallu vous appeler sur le terrain? J'ai entendu dire que vous n'êtes pas partisan du duel.
C'est une tradition du français, répliqua Lipoutine avec une moue désagréable.
Vous tenez pour la nationalité ?
L'expression de la mauvaise humeur s'accentua sur le visage de Lipoutine.
Bah, bah, que vois-je ?
S'exclama Nicolas, remarquant tout à coup un volume de considérants bien en vue sur la table.
« Est-ce que vous seriez fourriériste ? J'en ai peur !»«
Eh bien, et cela ? » ajouta-t-il avec un rire, tandis que ses doigts tambourinaient sur le livre.
« Est-ce que ce n'est pas aussi une traduction du français ?»«
Non, ce n'est pas une traduction du français !» reprit avec une sorte d'emportement Lipoutine.
« Ce sera une traduction de la langue humaine universelle, et pas seulement du français, de la langue de la République sociale humanitaire et de l'harmonie cosmopolite, voilà, mais pas du français seulement. »«
Diable, mais cette langue-là n'existe pas !» répondit le jeune homme avec un nouveau rire.
« Parfois, une niaiserie même nous frappe et retient longtemps notre attention. » De toutes les impressions que son séjour dans notre ville laissa à Nicolas Vsefolodovitch, aucune ne se grava dans son esprit en trait aussi ineffaçable que le souvenir de cet entretien avec Lipoutine. Qu'un petit employé provincial, un tyran domestique, un usurier de bas étage, un ladre enfermant sous clé les restes du dîner et les bouts de chandelle, qu'un Lipoutine, enfin, rêva Dieu sait quelle future république sociale et quelle harmonie cosmopolite, décidément, cela passait la compréhension de Nicolas.
IV. Notre prince voyagea pendant plus de 3 ans, si bien qu'en ville, on finit par l'oublier, ou à peu près. Nous sûmes, par Stepan Trofimovitch, qu'après avoir visité toute l'Europe, il était allé en Égypte et à Jérusalem. Ensuite, il prit part à une expédition scientifique en Islande. On nous apprit aussi que, durant un hiver, il avait suivi des cours dans une université d'Allemagne. Il écrivait à sa mère de 6 mois en 6 mois, et même quelquefois à intervalles plus éloignés. Recevant si rarement des nouvelles de son fils, Barbara Petrovna ne lui en voulait point pour cela. Puisque leur relation était établie sur ce pied, elle acceptait la chose sans murmure. Mais dans son fort intérieur, et quoiqu'elle n'en dît rien à personne, elle ne cessait de songer à son Nicolas, dont l'absence la faisait beaucoup souffrir. Elle élaborait à part soi divers plans, et semblait devenue plus avare encore que par le passé. À mesure qu'elle se montrait plus soucieuse d'amasser, elle témoignait aussi plus de colère à Stepan Trofimovitch quand ce dernier perdait au jeu. Enfin, au mois d'avril de la présente année, Barbara Petrovna reçut de Paris une lettre à elle écrite par la générale Praskovi Ivanovna Drozdov, son amie d'enfance. Depuis 8 ans, les deux dames ne s'étaient pas vues et n'avaient eu aucune correspondance ensemble. Les meilleurs rapports existent entre Nicolas Vsefolodovitch et nous, écrivait Praskovi Ivanovna. Il a lié amitié avec Malisa et se propose de nous accompagner en Suisse, à Vernex-Montreux, où nous irons cet été. Ce sera de sa part un sacrifice méritoire, car il est reçu comme un fils chez le comte K. en ce moment à Paris, et l'on peut presque dire qu'il a son domicile dans cette maison. Le comte K. était un personnage très influent à Pétersbourg. La lettre était courte et révélait clairement son but, quoiqu'elle se bornât à exposer des faits sans en tirer aucune conclusion. Les réflexions de Barbara Petrovna ne furent pas longues. En un instant, son parti fut pris. Elle fit ses préparatifs de départ, et, au milieu d'avril, se rendit à Paris, emmenant avec elle sa protégée Dasha, la sœur de Chatov. Ensuite, elle alla en Suisse et revint en Russie au mois de juillet. Elle avait laissé Dasha chez les dames Drozdov, qui elles-mêmes promettaient d'arriver chez nous à la fin d'août.
La famille Drosdoff était propriétaire d'un fort beau domaine dans notre province. Mais le service du général Ivan Ivanovitch l'avait toujours mise dans l'impossibilité d'y séjourner. Le général était mort l'année précédente. L'inconsolable Praskovy Ivanovna se rendit avec sa fille à l'étranger. Ce voyage était motivé par diverses raisons. La générale voulait notamment faire une cure de raisin à Vernex-Montreux pendant la seconde moitié de l'été. Après son retour en Russie, elle comptait se fixer définitivement parmi nous. Elle possédait en ville une grande maison qu'on n'avait pas habitée depuis de longues années et dont les volets restaient fermés. Les Drosdoff étaient des gens riches. Praskovy Ivanovna, mariée en première noces au capitaine de cavalerie Touchine, était, comme son amie de pension Barbara Petrovna, la fille d'un opulent fermier qui lui avait constitué une grosse dot en la donnant pour femme à M. Touchine. Ce dernier n'était pas non plus sans ressources, et quand il mourut, il laissa un joli capital à sa fille unique Lisa, alors âgée de 7 ans. Maintenant qu'Elisabeth Nikolaïevna approchait de sa 22e année, on pouvait hardiment évaluer sa fortune personnelle à 200 000 roubles, sans parler de l'héritage qui devait lui revenir après la mort de sa mère, celle-ci n'ayant pas eu d'enfant de son second mariage. Barbara Petrovna rentra dans ses foyers, enchantée du résultat de son voyage. Elle s'applaudissait d'avoir réussi à s'entendre avec Praskovy Ivanovna. Aussi, à peine arrivée, se hâta-t-elle de tout raconter à Stepan Trofimovitch. Elle se montra même fort expansive avec lui, ce qu'elle n'était plus guère depuis longtemps. « Hurrah ! » s'écria-t-il en faisant claquer ses doigts. Il était ravi. Et cela d'autant plus que jusqu'au retour de son ami, il avait été fort abattu. En partant pour l'étranger, elle ne lui avait même pas fait des adieux convenables et ne lui avait rien confié de ses projets, peut-être par crainte qu'il ne commît quelque indiscrétion. La générale était alors fâchée contre lui parce qu'il venait d'attraper une forte culotte au club. Mais, avant même de quitter la Suisse, elle avait senti qu'elle ne devait plus lui battre froid à son retour. Et, de fait, la punition durait depuis assez longtemps. Déjà fort affligée d'un départ si brusque et si mystérieux, Stepan Trofimovitch avait encore eu bien d'autres contrariétés. Son grand tourment était un engagement pécuniaire considérable auquel il ne pouvait faire face sans recourir à Barbara Petrovna. De plus, au mois de mai, s'était produit un événement grave. Notre bon gouverneur Ivan Osipovitch avait été relevé de ses fonctions, et l'arrivée de son successeur, André Antonovitch von Lemke, commençait à modifier sensiblement les dispositions de presque toute la société provinciale à l'égard de la générale Stravogine, et par suite de Stepan Trofimovitch. Du moins, celui-ci avait déjà recueilli plusieurs observations désagréables, quoique précieuses, et son inquiétude était grande. Ne l'avait-on pas dénoncé au nouveau gouverneur comme un homme dangereux? Il tenait de bonnes sources que certaines de nos dames étaient décidées à ne plus voir Barbara Petrovna. Quant à la future gouvernante, qu'on n'attendait pas avant l'automne, on répétait, pour l'avoir entendu dire, qu'elle était fière, mais on ajoutait qu'en revanche, elle appartenait à la véritable aristocratie et non à la noblesse de pacotille, comme notre pauvre Barbara Petrovna. À en croire les bruits répandus partout, les deux dames s'étaient autrefois rencontrées dans le monde, et il y avait eu entre elles de tels froissements que Madame Stavrogine ne pouvait plus entendre parler de Madame von Lemke sans éprouver une sensation maladive. L'air triomphant de Barbara Petrovna et l'indifférence méprisante avec laquelle elle apprit le revirement de l'opinion publique à son égard remontèrent le moral du craintif Stepan Trofimovitch. Subitement ragaillardi, il se mit à raconter sur le mode humoristique l'arrivée du nouveau gouverneur. « Vous savez sans aucun doute, excellent ami, commença-t-il en traînant les mots avec une intonation coquette. Ce que c'est qu'un administrateur russe en général, et en particulier un administrateur russe nouvellement installé. Mais c'est bien au plus si vous avez pu apprendre pratiquement ce que c'est que l'ivresse administrative.
L'ivresse administrative ? Je ne sais pas ce que cela veut dire.
C'est... Vous savez, chez nous... En un mot, prenez la dernière nullité. Préposez-la à la vente des billets dans une gare de chemin de fer, et aussitôt cette nullité, pour vous montrer son pouvoir, se croira en droit de trancher du Jupiter avec vous quand vous irez prendre un billet.
« Sache que tu es sous ma coupe »,
a-t-elle l'air de dire. « Eh bien, c'est un effet de l'ivresse administrative. »
« Abrégez, si vous pouvez, Stepan Trofimovitch. »
Monsieur von Lamps est maintenant en tournée dans la province. En un mot, cet André Antonovitch, quoique allemand, appartient, je le reconnais, à la religion orthodoxe. Je conviens encore que c'est un fort bel homme, de 40 ans.
Où avez-vous pris que c'est un bel homme? Il a des yeux de mouton.
Parfaitement exact, mais je me suis fait ici l'écho de nos dames.
Dispensez-moi de ces détails, Stepan Trofimovitch, je vous en prie.
À propos, vous portez des cravates rouges? Depuis quand?
C'est aujourd'hui seulement que je...
Et faites-vous de l'exercice? Vous devez abattre vos 6 verstes tous les jours. Est-ce que vous vous conformez à l'ordonnance du médecin?
Non, pas toujours.
Je m'en doutais. En Suisse, déjà, je l'avais pressenti.
Cria d'une voix irritée Barbara Petrovna.
À présent, ce n'est pas 6 verstes que vous ferez, c'est 10 verstes. Vous vous affaissez terriblement, terriblement. Vous êtes, je ne dirais pas vieilli, mais décrépi. Tantôt, quand je vous ai aperçu, cela m'a frappé, en dépit de votre cravate rouge.
Quelle idée rouge!
Continuez votre récit, si vous avez réellement quelque chose à me dire au sujet de von Lamck. Et dépêchez-vous, je vous en prie, je suis fatigué.
En un mot, je voulais seulement dire que c'est un de ces administrateurs qui débute à 40 ans, après avoir végété dans l'obscurité jusqu'à cet âge. Un de ces hommes sortis tout à coup du néant, grâce à un mariage ou à quelque autre moyen non moins désespéré. Il est maintenant parti. Je veux dire qu'on s'est empressé de me dépeindre à lui comme un corrupteur de la jeunesse, un prédicateur de l'athéisme. Aussitôt, il est allé aux informations.
Mais est-ce vrai?
J'ai même pris mes mesures. Quand on lui a rapporté que vous gouverniez la province, vous savez, il s'est permis de répondre qu'il n'y aurait plus rien de semblable.
Il a dit cela?
Oui, et avec cette morgue. Sa femme, Julie Mikhailovna, nous la verrons ici à la fin d'août. Elle arrivera directement de Pétersbourg.
De l'étranger, nous nous y sommes rencontrés.
Vraiment?
À Paris et en Suisse. C'est une parente des Drozdov.
Une parente? Quelle singulière coïncidence! On l'a dit ambitieuse, et elle a, paraît-il, des relations influentes.
Allons donc, des relations de rien du tout. N'ayant pas un copec, elle est restée fille jusqu'à 40 ans. Maintenant qu'elle a agrippé son von Lamck, elle ne pense plus qu'à le pousser. Ce sont 2 intrigants.
Et elle a, dit-on, 2 ans de plus que lui?
5 ans. À Moscou, sa mère balayait mon seuil avec la traîne de sa robe. Elle mendiait des invitations à mes bals, du temps de Vsevolod Nikolaïevitch. Quant à Julie Mikhailovna, elle passait toute la nuit seule, assise dans un coin, avec sa mouche en turquoise sur le front. Personne ne la faisait danser, si bien que vers 3 heures, par pitié, je lui envoyais un cavalier. Elle avait alors 25 ans, et l'on continuait à la mener dans le monde vêtue d'une robe courte comme une petite fille. Il devenait indécent de recevoir chez soi ces gens-là.
Il me semble que je vois cette mouche.
Je vous le dis, en arrivant, je suis tombée au milieu d'une intrigue. Vous avez lu la lettre de Praskovie Ivanovna. Que pouvait-il y avoir de plus clair? Eh bien, qu'est-ce que je trouve? Cette même imbécile de Praskovie. Elle n'a jamais été qu'une imbécile. Me regarde avec ébahissement, Elle a l'air de me demander pourquoi je suis venue. Vous pouvez vous figurer combien j'ai été surprise. Je promène mes yeux autour de moi. Je vois cette Lampe qui ourdit ses trames, et à côté d'elle, ce cousin, un neveu du vieux Drosdoff. Tout s'explique. Naturellement, en un clin d'œil, j'ai rétabli la situation, et Praskovi fait de nouveau cause commune avec moi. Mais une intrigue, une intrigue. Que vous avez pourtant déjoué. Oh, vous êtes un Bismarck. Sans être un Bismarck, je suis cependant capable de discerner la fausseté et la bêtise où je les rencontre. Lampe, c'est la fausseté, et Praskovi la bêtise. J'ai rarement rencontré une femme plus affaiblie, sans compter qu'elle a les jambes enflées et qu'avec cela elle est bonne. Que peut-il y avoir de plus bête que la bêtise d'une bonne personne?
Celle d'un méchant, ma chère amie. Un sot méchant est encore plus bête, observa noblement Stepan Trofimovitch. Vous avez peut-être raison. Vous souvenez-vous de Lisa?
Charmante enfant.
Maintenant, ce n'est plus une enfant, mais une femme, et une femme de caractère, une nature noble et ardente. Ce que j'aime en elle, c'est qu'elle ne se laisse pas dominer par sa mère, cette créature imbécile. Il a failli y avoir une histoire à propos du cousin.
Bah, mais au fait, entre lui et Elisabeth Nikolaïevna, la parenté n'existe pas. Est-ce qu'il a des vues?
Voyez-vous, c'est un jeune officier qui parle fort peu, qui est même modeste. Je tiens à être toujours juste. Il me semble que, personnellement, il est opposé à cette intrigue et qu'il ne désire rien. Je ne vois dans cette machination que l'œuvre de la Lampe. Il avait beaucoup de considération pour Nicolas. Vous comprenez, toute l'affaire dépend de Lisa. Mais je l'ai laissée dans les meilleurs termes avec Nicolas. Et lui-même m'a formellement promis sa visite en novembre. Il n'y a donc en cause ici que la rouerie de la Lampe et l'aveuglement de Praskovi. Cette dernière m'a dit que tous mes soupçons n'étaient que de la fantaisie. Je lui ai répondu en la traitant d'imbécile. Je suis prête à l'affirmer au jugement dernier. Et si Nicolas ne m'avait pas prié d'attendre encore, je ne serais pas partie sans avoir démasqué cette créature artificieuse. Elle cherchait à s'insinuer, par l'entremise de Nicolas, dans les bonnes grâces du comte K. Elle voulait brouiller le fils avec la mère. Mais Lisa est de notre côté, et je me suis entendue avec Praskovi. Vous savez, Karmazinov est mon parent.
Comment? Il est parent de Madame von Lampe?
Oui, parent éloigné.
Karmazinov, le romancier?
Eh oui, l'écrivain, qu'est-ce qui vous étonne?
Sans doute il se prend pour un grand homme. C'est un être bouffi de vanité.
Elle arrivera avec lui. Actuellement, ils sont ensemble à l'étranger. Elle a l'intention de fonder quelque chose dans notre ville, d'organiser des réunions littéraires. Il viendra passer un mois chez nous. Il veut vendre le dernier bien qu'il possède ici. J'ai failli le rencontrer en Suisse et je n'y tenais guère. Du reste, j'espère qu'il daignera me reconnaître. Dans le temps, il m'écrivait et venait chez moi. Je voudrais vous voir soigner un peu plus votre mise, Stepan Trofimovitch. De jour en jour, vous la négligez davantage. Oh, quel chagrin vous me faites! Qu'est-ce que vous lisez maintenant?
Je comprends.
Toujours les amis, toujours la boisson, le club, les cartes et la réputation d'athée.
« Cette réputation ne me plaît pas, Stepan Trofimovitch. Je n'aime pas qu'on vous appelle athée, surtout à présent. Je ne l'aimais pas non plus autrefois, parce que tout cela n'est que du pur bavardage. Il faut bien le dire à la fin. »«
Mais, ma chère, écoutez, Stepan Trofimovitch, en matière scientifique, sans doute, je ne suis vis-à-vis de vous qu'une ignorante. Mais j'ai beaucoup pensé à vous pendant que je faisais route vers la Russie. Je suis arrivée à une conviction.
Laquelle?
C'est que nous ne sommes pas, nous deux, plus intelligents que tout le reste du monde, et qu'il y a plus intelligents que nous.
Votre observation est très juste. Il y a plus intelligents que nous. Par conséquent, on peut avoir plus raison que nous. Par conséquent, nous pouvons nous tromper, n'est-ce pas?
Mais, ma bonne amie, mettons que je me trompe.
Après tout, ma liberté de conscience est un droit humain, éternel, supérieur. J'ai le droit de ne pas être un fanatique et un bigot, si je le veux. Et à cause de cela, naturellement, je serai haï de divers messieurs jusqu'à la consommation des siècles. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raisons, et que je suis tout à fait de cet avis...
Comment ? Qu'est-ce que vous avez dit ?
J'ai dit, on trouve toujours plus de moines que de raisons, et comme je suis tout à fait de cet...
Cela n'est certainement pas de vous. Vous avez dû prendre ce mot-là quelque part.
C'est Pascal qui l'a dit.
Je me doutais bien que ce n'était pas vous. Pourquoi vous-même ne parlez-vous jamais ainsi ? Pourquoi, au lieu de vous exprimer avec cette spirituelle précision, êtes-vous toujours si filandreux ? Cela est bien mieux dit que toutes vos paroles de tantôt sur l'ivresse administrative.
Ma foi, chère, pourquoi ? D'abord, apparemment, parce que je ne suis pas Pascal, et puis, en second lieu, nous autres, Russes, nous ne savons rien dire dans notre langue. Du moins, jusqu'à présent, on n'a encore rien dit.
Ce n'est peut-être pas vrai. Du moins, vous devriez prendre note de tels mots et les retenir pour les glisser, au besoin, dans la conversation. Ah, Stepan Trofimovitch, je voulais vous parler sérieusement.
Cher, cher ami.
Maintenant que tous ces Lampke, tous ces Karmazinov... Oh, mon Dieu, comme vous vous galvaudez! Oh, que vous me désolez! Je désirerais que ces gens-là ressentent de l'estime pour vous, parce qu'ils ne valent pas votre petit doigt. Mais comment vous tenez-vous? Que verront-ils? Que leur montrerai-je? Au lieu d'être, par la noblesse de votre attitude, une leçon vivante, un exemple, vous vous entourez d'un tas de fripouilles. Vous avez contracté des habitudes pas possibles. Vous vous abrutissez. Les cartes et le vin sont devenus indispensables à votre existence. Vous ne lisez que Paul de Kock et vous n'écrivez rien, tandis que là-bas, ils écrivent tous. Tout votre temps se dépense en bavardage. Peut-on ? Est-il permis de se lier avec une canaille comme votre inséparable Lipoutine ?
Pourquoi donc l'appelez-vous « mon inséparable » ? Protesta timidement Stepan Trofimovitch.
« Où est-il maintenant ? »
demanda d'un ton sec Barbara Petrovna.
« Il vous respecte infiniment, et il est allé à S pour recueillir l'héritage de sa mère.
Il ne fait, paraît-il, que toucher de l'argent. Et Chatov, toujours le même ?
Irascible, mais bon. Je ne puis souffrir votre Chatov. Il est méchant et a une trop haute opinion de lui-même.
Comment se porte Daria Pavlovna ?
C'est de Dasha que vous parlez ? Quelle idée vous prend ?
Répondit Barbara Petrovna en fixant sur lui un regard curieux.
Elle va bien. Je l'ai laissée chez les Drozdov. En Suisse, j'ai entendu parler de votre fils. On n'en dit pas de bien. Au contraire.
Oh, c'est une histoire bien bête. Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter...
Assez, Stepan Trofimovitch. Laissez-moi la paix, je n'en puis plus. Nous avons le temps de causer, surtout de pareilles choses. Vous commencez à envoyer des jets de salive quand vous riez. C'est un signe de sénilité. Et quel rire étrange vous avez maintenant. Mon Dieu, que de mauvaises habitudes vous avez prises. Allons, assez, assez, je tombe de fatigue. On peut bien avoir enfin pitié d'une créature humaine.
Stepan Trofimovitch eut pitié de la créature humaine, mais il se retira tout chagrin.